Les jardinières.
Bienvenue chez les jardinières. Durant une heure, vous avez la possibilité de poser vos questions à notre jardinier professionnel. Nous sommes le 1er février, alors même si votre potager a l'air endormi, il y a toujours quelque chose à y faire. Parole de jardinier. Ce matin, dans l'équipe des jardinières, il y a Sven. Bonjour.
Bonjour Mylène, salut à tous. C'est un vrai plaisir de compléter l'équipe des jardinières ce matin. Et pour répondre à vos questions, aujourd'hui, nous accueillons Tom le jardinier. Bonjour.
Bonjour, bonjour. Bonne année à tous les auditeurs. C'est la première fois que je vous parle cette année.
Ouais, alors bonne année à vous aussi,
oui,
d'ailleurs,
année.
Tom.
Bon, c'est comme si on était le 1er janvier, sauf qu'on est le 1er février.
Hein, un peu de retard.
Voilà. Et puis du coup, vu qu'on est le 1er février, n'oubliez pas de mettre votre vignette 2020 au passage, comme ça. Alors, Tom, vous partagez vos conseils jardinage, mais aussi culinaire, via votre site www.tomlejardinier.com, tout collé, sans slash, sans rien du tout, le plus simplement possible. On peut également vous suivre sur les réseaux sociaux ou voir vos vidéos sur votre chaîne YouTube. Vous êtes là ce matin pour répondre aux questions de nos auditeurs, des questions qu'on attend par téléphone au 0901 70 20 20 36 centimes la minute. Il y a aussi possibilité de faire ça par SMS. Vous tapez le mot jardin, vous laissez un espace, vous faites suivre tout ça de votre question et vous envoyez le tout au 939 ou bien finalement via le formulaire disponible sur nos sites internet sous l'onglet émission, questions aux jardinières. Et puis notez aussi que vous pouvez nous envoyer une petite photo de votre plante par le formulaire.
Ce qui aidera notre jardinière à répondre à votre question. Voilà, vous avez toutes les infos, c'est parti pour une heure ensemble.
7h, 8h, les jardinières.
Tempête, de vent, brouillard, soleil, pluie, gel, chaud, froid, bref. La météo de ces derniers jours nous rend chèvre. Alors, si nous ne savons plus comment nous habiller, Tom, est-ce que c'est pareil pour les plantes? Sont-elles un peu perdues dans cet hiver inhabituel?
Alors, on voit quelques petites choses inhabituelles, notamment certains bulbes qui viennent en fleurs pratiquement un mois à l'avance. Mais on peut un petit peu se rassurer en se disant que généralement, le mois de février devient de plus en plus froid. Donc, c'est une bonne chose pour éviter qu'on ait encore des gels plus tard si on aurait des arbres qui commencent à venir en fleurs. Donc, pas de panique, on prend son temps. Il y a encore plein de choses qu'on peut faire bien au chaud cet hiver à la maison, mais aussi un petit peu préparer notre jardin.
Bah dites-nous, qu'est-ce qu'on peut préparer?
Alors, déjà, si on veut commencer un potager, c'est le bon moment pour s'y prendre. Donc, on va commencer à choisir nos graines, feuilleter les catalogues des semenciers pour pouvoir commander des graines un petit peu à l'avance. On va bientôt commencer à semer les tomates, les poivrons, les aubergines. Donc, c'est plutôt vers la milieu, fin du mois, donc on a encore un peu le temps. Mais c'est aussi la bonne période pour aller faire les plants de son jardin, commencer les rotations de culture, donc pas mettre deux années de suite la même plante dans la même parcelle dans son jardin. Puis ces parcelles, aussi c'est le bon moment pour en faire des nouvelles.
Eh bien merci Tom. Vilaine, vous vouliez?
Non, je voulais juste dire merci, je l'écoutais, je buvais ses paroles.
Mais je vous voyais, c'est vrai que je vous voyais tellement boire ses paroles que je me suis dit qu'il fallait y aller. Tom, merci Tom le jardinier. Vous répondez donc aux questions de nos auditeurs, c'est jusqu'à 8h. Et toujours ces trois possibilités pour nous faire parvenir vos questions. Par téléphone, 0901 70 20 20, 36 centimes la minute. Vous parlerez directement à Tom. Là, c'est vraiment clairement le plus simple. Sinon, si vous n'avez pas le temps de nous téléphoner, vous prenez votre smartphone, vous faites un SMS ou vous tapez le mot jardin, vous laissez un espace, vous faites suivre de votre question et vous envoyez le tout au 939. Ou alors, vous pouvez faire ça via le formulaire disponible sur nos sites internet sous l'onglet émission questions jardinières.
Et toujours la possibilité de joindre une photo pour aider notre jardinier à régler votre problème. Les jardinières reviennent dans un instant, juste après Noir Désir.
Les jardinières.
0901 70 20 20, c'est le numéro qu'il faut composer pour poser vos questions jardinage directement à Tom, le jardinier. Il vous en coûtera 36 centimes la minute. Sinon, vous pouvez nous envoyer un message, vous tapez jardin, un espace, votre question. Vous envoyez tout ça au 939 ou bien sûr les formulaires à disposition sur nos sites internet. Ça se passe sous nos sites, sous l'onglet émission questions jardinières avec la possibilité de joindre une photo. On va se lancer maintenant dans les questions, Sven.
Oui, alors Tom le jardinier. jardinier, on a cette question de Martial. Le vent tempétueux du début de semaine a cassé plusieurs branches de notre vieux noyer, c'est ce qu'il nous dit. Et maintenant, il demande, que faut-il faire pour entretenir ce noyer, recouper les branches ou simplement laisser comme ça?
Alors, si les casses de branches et la taille de la branche est assez importante, je conseille toujours de recouper pour faire une plaie nette et puis avec des outils évidemment bien désinfectés. Par contre, un noyer, ça se taille pas vraiment, donc c'est juste pour refaire des coupes bien nettes parce que le bois de noyer a tendance à pas supporter la taille. Et puis, généralement, on dit on fait qu'une seule taille avec un noyer, c'est on le coupe à zéro. Donc, on l'abat et puis parce que c'est un bois qui vaut aussi assez cher, donc voilà.
La taille, si on l'a fait, il faut couper droit ou biseau.
Moi, je conseille toujours de tailler le plus droit possible parce que ça fait une surface de cicatrisation la plus faible possible. Et puis l'eau, ou alors un très 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 léger le biais pour que l'eau ne stagne pas sur les plaies.
Merci Tom. On rappelle que vous êtes Tom le jardinier, qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Vous pouvez poser vos questions par téléphone au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Par SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question, vous nous l'envoyez au 939 ou via le formulaire disponible sur nos sites internet. Sven, on va parler pommiers, je crois.
Exactement. Donc Tom, cette question, l'année dernière, nous avons planté des pommiers. Ils mesurent environ 1,20 m. Et y a des enfants qui sont allés jouer autour et l'un d'eux est tombé sur un pommier. Une branche s'est cassée et le haut de la branche principale également. Que faut-il faire, à part punir le gosse et le mettre dans sa chambre, pour ne pas perdre cet arbre?
Alors, comme ils ont été plantés l'année dernière, il n'y a pas trop de risques. Donc on va supprimer la branche, faire une belle plaie, comme toujours. Et puis même, si on arrive dans la période de la taille, donc si la branche est coupée par son milieu, ben on regarde pour sélectionner un bourgeon qui va repartir dans le prolongement de la branche. Donc toujours faire que la branche pousse vers l'extérieur pour donner un beau volume à notre arbre. Comme ça, il y a l'air qui circule, ça sèche l'humidité dans les feuilles pour la suite. Donc notre arbre sera moins malade.
Est-ce qu'il faut mettre un pansement?
Alors, il existe des mastics pour les arbres fruitiers et tout ça. Alors, on peut mettre un petit peu d'argile. J'ai pas contre l'argile, mais généralement, ces espèces de mastics industriels et qu'on trouve dans le commerce, je ne vois pas tellement d'intérêt. Ils apportent pas grand chose à l'arbre.
Et donc, Tom, c'est pas comme dans la pub, le bepanthène, ça marche pas?
Ben non, peut-être sur le gosse qui est tombé.
Ça peut être une idée, ouais.
Il est gentil de penser à cet enfant qui peut-être s'est fait mal en tombant contre ce petit pommier. On parle de ce petit arbre, vous plantez l'année dernière, ça serait arrivé sur un plus gros. Bon, s'il avait foncé dans un plus gros, c'est que l'enfant qui se serait fait mal. Mais en grimpant dessus, il casse une branche. Là, c'est pareil, on fait une belle coupe.
Ben, c'est ce que j'allais dire, faire une belle coupe. Après, il faut voir l'importance de la branche. Généralement, quand une branche cède sous le poids, même d'un enfant, c'est que l'arbre est déjà malade à la base. Donc, il faut vraiment faire attention à faire les plaies les plus lisses possibles. Comme ça, l'arbre va bien cicatriser. Toujours utiliser des sécateurs, des scies désinfectées et propres pour pas contaminer l'arbre avec d'autres maladies, parce que c'est toujours une porte d'entrée, ces plaies, à des autres maladies.
Et pas un de ces, comment on appelle, tailleurs électriques?
Les tailleurs électriques, ça va pour les haies qui sont généralement plus résistantes à ça, et on fait de multiples coupes sur des plus petites branches. Tandis que là, un arbre, généralement, on peut avoir des branches charpentières qui font quelques bons 20 cm de diamètre. Donc, on va éviter d'utiliser un taille-haie qui risque de faire plus de dommages qu'autre chose.
Merci beaucoup, Tom. On rappelle que vous êtes en notre compagnie jusqu'à 8h. Sven, on va peut-être rappeler comment nous joindre pour poser vos propres questions.
Ouais, il y a plusieurs possibilités. Donc, il y en a trois qui s'offrent à vous. La première, ce sera directement par téléphone. Comme ça, vous pouvez utiliser vos propres mots. Ce sera plus simple. Vous en parlez directement avec Tom le jardinier au 0901 70 20 20. C'est 36 centimes la minute. Sinon, vous pouvez toujours, via votre téléphone, prendre votre smartphone cette fois et nous envoyer un SMS. Vous tapez le mot jardin, vous laissez un espace, vous joignez votre question et vous envoyez ceci au 939. Et puis sinon, vous allez sur votre ordinateur et vous faites ceci par le formulaire disponible sur notre site sous l'onglet émission, question aux jardinières. Et en plus de ça, vous pouvez joindre une photo tout simplement. Comme ça, on peut peut-être voir l'étendue des dégâts, ce qui est peut-être aussi des fois un peu plus parlant que des paroles, justement.
On se retrouve après une pause musicale, météo et inforoute.
7h, 8h, les jardinières.
Place à la suite des jardinières et bienvenue si vous nous rejoignez maintenant. Le samedi entre 7h et 8h, un jardinier professionnel répond à vos questions. Ce matin, c'est Tom le jardinier qui est à votre disposition. Vous retrouvez Tom sur son site tomlejardinier.com ou bien sûr via les réseaux sociaux.
Et puis bien sûr, vous pouvez aussi poser vos questions par téléphone au 0901 70 20 20, 36 centimes la minute. Par SMS, vous tapez le mot « jardin ». Vous laissez un espace et vous faites suivre votre question. Vous envoyez le tout bien ficelé au 939. Ou alors, finalement, vous pouvez passer par notre site rjbrtnrfj.ch. Vous remplissez le formulaire disponible sous l'onglet émission questions aux jardinières. Vous pouvez même joindre une photo de votre plante lors de l'envoi de ce formulaire.
Et puis ne soyez pas timide, hein, c'est Sven qui vous répondra au téléphone.
Voilà. Oui, bonjour.
Il vous reste un peu moins d'une demi-heure pour poser vos questions, comme l'a fait Marcel, qui n'a pas récolté toutes ses patates. Il aimerait savoir si celles qui sont encore en pleine terre sont encore mangeables ou si c'est mieux de les laisser et d'attendre que de nouvelles plantes arrivent. D'ailleurs, vont-elles repousser toutes seules? Merci, il précise qu'il vit à Delémont.
Alors Marcel, pour ces pommes de terre, moi j'y conseille de vérifier si elles n'ont pas gelé. Si elles ont gelé, là ça risque d'être un petit peu problématique. Bah, sinon elles ont profité de la terre comme une cave en fait. Donc elles seront parfaitement comestibles. Vont-elles repousser toutes seules? Oui, les pommes de terre peuvent repousser toutes seules. Cependant, comme elles ont tendance à pousser en groupe, ça risque de poser un petit peu problème, donc d'espace, et les plantes risquent de devenir malades. On le voit des fois dans nos composts, les pommes de terre repoussent avec simplement des épluchures qu'on aurait un peu enlevées, trop d'épluchures, donc ça peut nous donner de nouvelles pommes de terre.
Et on pourrait les consommer?
Si, les nouvelles pommes de terre.
Les nouvelles, oui.
Oui, pas
les épluchures du compost.
Pas les épluchures du compost, non, mais les pommes de terre, même produites avec les épluchures du compost, sont tout à fait mangeables.
Merci, Tom. Est-ce que Sven est de retour?
Oui, je suis là. Donc, votre appel aux appels a bien été entendu. Il y a Lucienne de Beaule qui nous a appelé pour une question. Elle n'avait pas trop le temps de rester avec nous, donc c'était assez rapide. Elle m'a laissé le soin donc de faire suivre cette question. Tom, notre amie Lucienne, elle a un citronnier qui était, elle m'a dit, magnifique au début de l'hiver. Ensuite, elle l'a rentré. Et là, les feuilles sont tombées. Et puis maintenant, elle aimerait savoir qu'est-ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit laisser les citrons qui sont dessus? Qu'est-ce qu'elle doit faire avec ce citronnier pour qu'il redevienne aussi magnifique qu'avant?
Alors, le problème de ce citronnier et de toutes les plantes que l'on rentre en intérieur, c'est des plantes d'orangerie, donc elles supportent le froid, mais pas le gel. Généralement, dans nos intérieurs, il fait toujours plus chaud et plus sec que s'ils étaient laissés à l'extérieur. Donc déjà, essayez de mettre dans une température qui peut atteindre 7, 8 degrés, juste en étant hors gel. Le problème, c'est souvent ça. Et deuxième problème, c'est souvent le manque de lumière. Donc là, on va vers une période où c'est que les jours augmentent d'environ 1 à 2 minutes par jour, donc c'est pas énorme. Mais le mettre le plus proche possible d'une fenêtre, c'est souvent ça le problème aussi. Manque de lumière, les plantes adaptent leur feuillage en fonction de la lumière pour pas que l'une fasse de l'ombre à l'autre, pour qu'elle capte un maximum de lumière. Donc c'est ça qui fait que les feuilles peuvent tomber.
Je me demandais, 7-8 degrés, beaucoup de lumière, c'est difficile de trouver une pièce comme ça. Si elle mettait par exemple ce citronnier dans sa cave, où il n'y a pas de fenêtre, et qu'elle laisse la lumière allumée, ça fait la même chose ?
Alors non, les principales lumières de nos intérieurs n'ont pas les plantes ne captent pas forcément tout le spectre lumineux de nos lampes d'intérieur, vraiment le plus proche d'une fenêtre possible. Ces endroits, on les trouve souvent dans les halls d'immeubles. Il fait des fois très lumineux entre deux appartements. C'est pas très chauffé. On maintient ça hors gel pour que les tuyaux d'eau ne gèlent pas. Donc ça, un bon endroit, c'est qu'on peut les mettre. Aussi les garages, on sait qu'ils gèlent pas, mais il y a une belle baie vitrée.
Merci Tom, on vous rappelle que vous pouvez nous appeler comme l'a fait Lucienne au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous avez aussi la possibilité de nous envoyer des messages, vous tapez jardin un espace votre question, vous nous l'envoyez au 939 et bien sûr les formulaires sont à votre disposition sur nos sites internet sous l'onglet émission questions aux jardinières. Sven, on va parler talus.
Oui, on a aménagé dans une nouvelle maison et puis justement il y a un talus, c'est une question qu'on a reçue, il y a un talus avec des arbustes. Les anciens locataires ont mis une bâche au sol et les plantes ont poussé à travers les trous de cette bâche et les personnes qui ont acheté cette maison aimeraient retirer la dite bâche, mais comment faire ? Avez-vous des solutions simples qui ne feraient pas de mal aux plantes qui sont déjà en place ?
Alors, il faut utiliser... Soit on sacrifie les plantes, soit on sacrifie la bâche. Il y a un petit peu... c'est un peu qui tout double. Si on veut pas faire du mal aux plantes, on va prendre des cutters ou des bons ciseaux ou quelque chose comme ça, ou une bêche, et on va essayer d'agrandir le trou où c'est qu'il y a ces arbustes pour qu'on puisse les faire passer ou soit par-dessus, soit sur les côtés. Ensuite, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre à la place de cette bâche si c'est dans un talus ? Soit, moi j'ai même vu des petits potagers sur les talus, je trouve ça très sympa. Si c'est par exemple pour une école, il y a souvent un talus près de l'école, on fait des lambards de travers pour faire un petit peu des. Comme les cultures de riz, donc niveler par.
Par étage des escaliers, étage, là.
Voilà, faire des escaliers. On peut permettre de faire des petits potagers. Puis sinon, on peut mettre tous les lierres, on peut mettre toutes les pervenches qui font des petites fleurs violettes pour maintenir ce talus en place.
Et la bâche, à la base, elle sert à...
Éviter le désherbage, principalement.
Ah, c'est un truc de fainéant.
Ouais.
on va faire une pause musicale pour permettre à Tom le jardinier de souffler, à nous aussi bien sûr, avec Queen, We Are The Champions.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières sont avec vous jusqu'à 8h. Nous sommes toujours en compagnie de Tom le jardinier. Vous pouvez toujours poser vos questions par SMS. Par exemple, vous tapez jardin, un espace, votre question et vous nous l'envoyez au 939. On a parlé talus. On va parler maintenant calendrier lunaire. Je vous laisse vous lancer, Sven.
Ouais, alors selon justement ce calendrier lunaire du jardin, ce week-end est un week-end idéal pour s'occuper de l'ensemble des arbres fruitiers. Malheureusement, si je le fais moi, je n'aurai pas le temps. Que dois-je faire ? Attendre la prochaine lune favorable ? Ou est-ce que je peux le faire dans les jours qui suivent, genre lundi, mardi ?
Alors, le calendrier lunaire, déjà, qu'est-ce que c'est pour nos amis auditeurs ? En fait, il y a un mouvement sur le jardinage et l'agriculture qui s'appelle la biodynamie, généralement qui utilise ce fameux calendrier lunaire pour... jardiner en fonction de la lune, soit la lune elle est croissante, soit elle est décroissante, et aussi les signes du zodiaque. Donc, moi, j'ai jamais été éduqué avec ce calendrier lunaire, je l'utilise rarement, mais dans ces calendriers lunaires, si on est un petit peu néophyte du jardin, ce qu'ils me disent de faire dedans, c'est toujours la bonne période. Donc, comme ça, si on veut une liste de tâches, de choses à faire, à peu près en fonction de la saison, c'est une bonne période pour tailler les arbres, par exemple, là, ce que dirait son calendrier lunaire. Par contre, il faut pas non plus être un acharné du calendrier lunaire, à mon sens. Si c'est la bonne période pour le faire, c'est mieux. Par contre, pour les semis, là, je m'essaye de m'y tenir un petit peu. Parce qu'on sait que la Lune a une influence sur l'eau. On voit ça avec les marées, avec les humeurs et ce genre de choses-là. Donc, c'est possible que les semis, moi, je les fais en fonction de mon calendrier lunaire pour respecter les jours feuilles et les jours racines pour avoir le meilleur résultat possible.
Et ces calendriers lunaires, on en trouve des dizaines sur Internet. On trouve aussi des versions papier qu'on peut acheter dans des jardineries ou ailleurs. C'est tous les mêmes.
Ben, la Lune est généralement à quelques, dans le même espace. La France et la Suisse, c'est à peu près le même espace. Donc, on a généralement des décalages de quelques minutes. Donc, généralement, on n'est pas quelques minutes près. Par contre, si on traverse les océans, il peut y avoir des différences.
Donc, choisir plutôt un calendrier lunaire suisse pour
plutôt
nous.
Plutôt un calendrier lunaire suisse, voilà.
Allez pas l'acheter aux États-Unis quand vous allez en vacances, Mylène.
D'accord.
Voilà.
Je prends note. On va parler d'oiseaux. C'est Mathieu qui aimerait aider les oiseaux à se nourrir pendant la période de froid. Il aimerait confectionner des boules pour ses oiseaux, mais ne sait pas quel conseil suivre pour bien faire. Tom, avez-vous une recette pour Mathieu ?
Alors, malheureusement, je n'ai pas de recette et je ne suis pas un fan d'ornithologie. Ce que je peux dire avant de faire des recettes, c'est d'essayer de confectionner des espaces appropriés. C'est peut-être, par exemple, les fleurs de nos tournesols qu'on a au jardin. En laisser peut-être un ou deux pieds sur place. Comme ça, les oiseaux peuvent venir. Autre chose qui peut être faite sans trop de problèmes, comme là, ils ne gèlent pas, c'est créer, par exemple, avec des soucoupes de nos plantes, des réservoirs d'eau pour que les oiseaux puissent venir boire au jardin. Je ne vais pas conseiller avec les graisses, comme ça je ne m'y connais pas assez pour donner des conseils, mais essayer de recréer des espaces naturels le plus possible. On peut mettre du cynoreau, dont on sait qu'ils viennent aussi se nourrir des fameux gratte-cul. Donc voilà, ce genre de choses-là que je peux conseiller, je ne m'y connaîtrai pas assez pour faire des boules.
Merci, Tom. On va enchaîner avec des capucines.
Ouais. On a quelqu'un qui a acheté un bulbe de capucine tubéreuse et il aimerait savoir comment le mettre en culture. Est-ce qu'il peut le mettre en culture directement maintenant ou bien comment faire ?
Alors, j'y conseillerais d'attendre un petit peu jusqu'à presque mars-avril. Donc, la capucine tubéreuse va souffrir du gel encore maintenant. Ce qu'il peut faire pour la conserver d'ici là, c'est de la mettre par exemple dans de la sciure ou dans de la terre un peu sèche et le conserver à la cave sans lumière, dans un endroit assez frais.
Et ensuite, on peut le mettre directement en pleine terre ?
Alors, j'éviterais de la mettre en pleine terre tout de suite. Ce genre de capucine tubéreuse, moi, je les ai toujours vues en pot. Alors, est-ce que l'expérience peut se tenter ? Mais je conseillerais plutôt de le faire quand même en pot.
Alors, moi, je trouve qu'elle a un nom joli, mais je n'ai aucune idée à quoi ça ressemble. Vous arrivez à nous la décrire ?
Alors, ça fait les fleurs qui ressemblent vraiment à la capucine. Et donc, c'est orangé, rouge, assez... assez vif. Et puis, c'est des plantes qui, malheureusement, sont pour moi des plantes indicatrices quand il y a des pucerons. Donc, elles sont assez indicatrices de l'état de nos cultures. Si on voit des pucerons sur nos capucines, il risque d'y en avoir généralement partout dans le jardin.
Donc, c'est une bonne idée d'avoir des capucines, finalement.
Elles attirent, ben, comme les rosiers.
Elles les attirent.
Et comme les rosiers dans les vignes, on en voit régulièrement. Donc là, c'est par exemple pour l'oïdium. Donc, s'il y a de l'oïdium sur les rosiers, c'est le bon moment de traiter nos vignes contre l'oïdium. C'est des plantes qui sont légèrement plus sensibles que la vigne.
Merci, Tom. Vous avez une question, Sven ?
Non.
On va anticiper avec cette question sur la Saint-Valentin, c'est dans 2 semaines. Et puis un auditeur aimerait offrir un joli bouquet. Quelle fleur choisir pour que ce bouquet dure le plus longtemps possible ? Je vous interdis, Tom, de répondre des fleurs en plastique ou un cactus, ça ne s'offre pas à la Saint-Valentin.
Alors, j'allais dire 2 choses. La Saint-Valentin... Si on commence à faire attention à son climat et genre de choses-là, on va déjà éviter les roses. Parce qu'elles sont produites le plus possible dans des pays où c'est que les conditions météorologiques le permettent ou dans des serres surchauffées. Donc on va éviter le plus possible de ça. J'essayais de regarder avec quelques fleuristes parce que je vais écrire un petit article sur mon blog sur la Saint-Valentin justement. Je conseille le plus possible d'utiliser des plantes locales, mais on peut aussi offrir des plantes en pot, pas un cactus, mais une jolie plante d'intérieur qui revient vraiment à la mode, fera beaucoup plus plaisir qu'un bouquet qui J'espère périmera le moins vite possible, comme l'amour entre un couple.
Oh,
c'est mignon.
La petite touche de douceur de notre fin. Ce matin, nous avons parlé avec vous, Tom, de pommiers cassés, mais aussi de capucine tubéreuse et de pommes de terre, de bâches sur le jardin. Et avant de se quitter, place à notre traditionnelle question de fin d'émission. Tom, nous sommes le 1er février. Alors, entre vent, neige qui se fait désirer, rayons du soleil et froid, que faut-il faire au potager ?
Alors, au potager, on va encore rester un petit peu au chaud, ou alors couvrir notre potager avec des feuilles mortes pour éviter que tous les nutriments de notre sol filent dans les nappes phréatiques. Sinon, au chaud, comme je le disais en début d'émission, consulter les catalogues, faire les plans des semis, quand est-ce qu'on sème quoi, pour éviter le plus possible de se retrouver dépassé au printemps et qu'on ne sache plus où donner de la tête, parce que c'est souvent ce qui arrive quand on jardine un petit peu. Ah, j'ai oublié de semer ça, et on est obligé d'acheter des plants en jardinerie. Autre chose qui peut être faite pour le moment, c'est toutes les plantations d'arbres fruitiers, les pommiers, les poiriers, mais aussi, on l'oublie un petit peu souvent, les groseilliers, les cassissiers se plantent en cette période, et pourquoi pas essayer la baie de goji.
La baie de goji, ça se plante par chez nous.
Ça peut se planter par chez nous, et moi j'ai eu mes premiers fruits cette année.
Et c'était bon ?
Il faut d'abord les sécher, et c'est tout un... C'est assez compliqué à faire, mais oui, j'ai eu un premier muesli au baie de goji suisse.
Maison, oh, ça doit faire... Du bien, vous avez parlé juste des feuilles mortes à mettre sur le jardin maintenant pour garder les nutriments. Est-ce qu'au printemps, quand on va commencer à semer, il faut les enlever ou un simple brassage de terre suffit ?
Alors, il y a deux écoles et je dirais il y a même une réponse qui se donne à deux altitudes différentes. Quand on est plutôt côté lac où c'est qu'il fait plus chaud, la terre va se réchauffer suffisamment vite pour pouvoir laisser ce paillage qui évitera quelques désherbages. Par contre, quand on est plutôt du côté des franches montagnes où c'est qu'il fait un peu plus frais, laisser les rayons du soleil traverser la terre pour la réchauffer, c'est pas une mauvaise chose.
Merci beaucoup, Tom.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein, Mylène. Pour suivre notre ami Tom le jardinier, je vous rappelle que vous pouvez aller sur son site www.tomlejardinier.com, tout en un mot, tout collé, ou alors via directement les réseaux sociaux, YouTube et tout le tralala. Vous le découvrirez donc en vidéo. Et Tom, surtout, on vous souhaite un bon retour chez vous et on vous dit à très vite. Très belle journée.
Merci beaucoup et bon jardinage.
Ah bah oui, on va s'y mettre. Vos questions, les jardinières seront de retour samedi prochain dès 7h et nous serons en compagnie de Philippe Detra, horticulteur bio à Neuchâtel. Vos questions, on a reçu d'ailleurs un SMS juste maintenant en toute fin d'émission. Ne vous inquiétez pas, il sera pris en priorité samedi prochain. Et si vous avez déjà des questions, vous pouvez nous les poser. Vous le faites en tout temps par SMS par exemple ou via le formulaire. Et vous pouvez bien sûr réécouter cette émission en podcast sur nos sites internet. Merci Sven d'avoir été en notre compagnie ce matin.
Avec plaisir, je me mettrai au jardinage. Je pense que j'y ai pris goût maintenant.
Vous avez plutôt intérêt. Et puis bon week-end à tous et à bientôt.
Salut.